Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague en français. Pour ce samedi 26 décembre, traditionnellement troisième jour des fêtes de Noël en République tchèque, c'est une nouvelle émission spéciale que nous vous proposons, une émission qui sera littéraire. Publiée en 2004 par les éditions Phébus en France, Golem est un roman qui raconte les conséquences que peut avoir la transmission d'un secret comme celui du Golem de Prague. Surtout si ce secret, détenu depuis des siècles par un seul membre de la communauté juive, est transmis à la fin des années 1930 et récupéré par des érudits dévoués au service du nazisme. Alain Delbe est l'auteur de ce récit Golem qui fait donc revivre de façon originale une des grandes légendes de Prague. Alain Delbe.
Le but de ce roman, c'était de reprendre déjà la légende du golem, qui est une tradition juive de la Kabbale. Donc évidemment, le plus célèbre, c'est le golem de Prague, hein, qui aurait été fait par le célèbre rabbin, le Maharal, le rabbin Lev. Mais le golem, c'est une tradition juive qui veut qu'effectivement, pour certains grands personnages, des saints de la Kabbale, prouvent leur niveau de spiritualité, justement en étant capable, à l'image de Dieu, de pouvoir créer la vie, de pouvoir créer un être humain. Donc, une des idées de ce livre, ça a été juste de reprendre cette figure du golem, parce que je me suis aperçu en fait que le golem a beau être une créature mythique comme ça, mais il a très peu de place dans la vraie, véritable littérature. Donc il y a tout l'aspect de la légende. Le roman le plus célèbre qui s'en est inspiré, c'est le roman de Mehring, Gustav Mehring, écrivain d'origine pragoise, qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle Le Golem, mais où le golem est une créature assez évanescente qui apparaît en fait très peu, et même à un moment le personnage central se retrouve dans ses habits. C'est plus l'ombre du golem qui traverse comme ça l'histoire des personnages. À part ça, il y a des grands auteurs, évidemment, comme Elie Wiesel, Isaac Bashevis Singer, qui ont écrit aussi des choses sur le golem, mais c'est quelque chose qui, des œuvres qui reprennent, en fait, de façon assez précise, la simple légende du golem, les légendes du golem de Prague. Donc, je me suis aperçu donc j'ai voulu faire quelque chose où, effectivement, qui reprendrait l'histoire du golem en la renouvelant. Donc, l'idée centrale du livre, ça a été, puisque l'histoire se déroule dans la Prague de la fin des années 30.
Oui, alors c'est ce qu'il faut dire. Alors, on parle de ce golem qui est une légende. Mm-hmm. On a du mal à le situer dans l'histoire. Vous le faites vivre. C'est un golem très concret que l'on voit presque dans la lecture. Et vous le placez à une époque de l'histoire de la Tchécoslovaquie, de l'Europe très précise, c'est-à-dire à Prague en 1937.
Voilà. Donc effectivement, l'idée, c'est de dire que le golem n'est pas qu'une légende. En fait, c'est effectivement une possibilité, et que effectivement, l'idée, c'est que comme le Maharal, enfin la communauté juive de Prague est possédée par tradition, un don de Dieu, qui le faisait que toujours un parmi cette communauté était capable de créer le golem. Donc je prends cette idée en faisant quelque chose de toujours actuel. Et donc j'imagine que, en fait, les nazis, puisqu'il y a eu tout un courant occultiste derrière le nazisme, ont eu comme projet d'arracher justement aux juifs de Prague le secret de la fabrication du golem.
Oui, parce que eux prétendaient que c'était aussi une tradition qui leur appartenait, qui appartenait à leurs ancêtres.
Ça a été en tout cas une surprise pour moi de l'écriture du roman, parce que donc je suis parti de cette idée-là, hein, que je viens de dire. Et en fait, en me documentant sur le sujet, je me suis aperçu qu'il y avait bien eu tout un courant parmi des occultistes allemands et qui étaient dans des cercles très proches du pouvoir nazi, hein, puisque c'était quand même en particulier un personnage qui s'appelait Karl Maria Willigut et qu'on a surnommé le Rasputin de Himmler, et qui justement avait développé ces idées-là de dire que, en fait, les secrets magiques de la Kabbale étaient à l'origine les secrets des druides, des érudits, des prêtres ariens, germains, donc des païens, et que devant la christianisation qui effaçait de façon très violente tout ce qui était le paganisme, ces druides ont confié leurs secrets à des gens de la communauté juive, qui eux aussi étaient persécutés par le christianisme à l'époque, mais qui leur paraissaient plus capables de s'organiser et de survivre. L'histoire a prouvé que oui, hein, puisque justement cette tradition-là, elle a perduré. Mais donc il y a cette idée que les secrets magiques de la Kabbale étaient à l'origine ceux des prêtres, des druides ariens de la tradition germanique païenne. Et donc ces personnages avaient cette idée justement de la retrouver, de la reconstruire, et justement en étudiant aussi les secrets de la Kabbale. Donc moi je passe, je fais un pas de plus, puisque là l'idée du golem, ça c'est moi qui l'invente, et donc j'imagine effectivement qu'ils vont justement essayer d'envoyer, d'arracher et de réussir, et dans le roman ils réussissent à arracher aux Juifs de Prague le secret de la fabrication du golem. Dans le but évident, pour eux, le golem, c'est donc un serviteur, une créature d'argile à laquelle on fait faire effectivement tout ce que l'on veut, et donc des soldats, des ouvriers, ce qui, dans le fantasme de cette idéologie, permettait effectivement de ne plus s'encombrer des races inférieures. Voilà, c'était ça la finalité. Hein.
Donc l'objectif des nazis est de se réapproprier ce secret du golem.
Voilà.
Et d'où le titre golem, voilà. Avec un S. Donc, parce qu'il y aura le golem de Prague et le golem en fait des
nazis. Bien sûr,
nazis.
Voilà, parce qu'il va donc forcément, il va y en avoir plusieurs. Hein. Donc on n'en reste pas à un golem qui est réanimé de temps en temps à chaque nouveau possesseur du secret, mais effectivement une espèce de production en masse de golems, quoi.
Alors cela, c'est la première partie de votre livre. L'histoire se déroule alors à Prague, de l'avant-guerre. Est-ce que pour vous, cette première partie a représenté beaucoup de travail, et quel type de travail ? Parce qu'on voit votre livre, effectivement, il y a la narration, l'histoire, mais il y a aussi beaucoup d'échanges entre juifs, entre nazis, parce qu'il y a aussi un espion allemand qui se trouve à Prague, qui se lie d'amitié avec une Française qui vient faire ses études à Prague. Un jeune juif auquel le rabbin transmet le secret. Alors, comment, dans votre tête, dans votre esprit, est née cette histoire, et puis comment assembler tout ça ?
D'abord, on part d'une idée de départ, celle que je viens de vous dire, et puis après, il y a tout le travail un peu effectivement de documentation autour de cette figure du golem, toute une érudition, parce qu'il y a toute une tradition qui en parle, et puis effectivement, toute une recherche de documentation de tout ce qui a été ces bases occultistes du nazisme. hein, qui étaient des choses assez, assez énormes. Hein. Ce n'étaient pas des fantasmes dans la tête de quelques-uns. Hein. Il y en avait en particulier, on peut le visiter toujours aujourd'hui, et ça sert de décor à quelques scènes du roman, le château de Wewelsburg, en Allemagne, en Westphalie, un château au sommet de sa colline, quelque chose d'assez impressionnant, quoi, et qui était de façon tout à fait volontaire conçu pour être un futur centre d'initiation de la SS, enfin vraiment de quelque chose de rituel, quelque chose qui tenait très à cœur à Himmler. Himmler, en particulier de tous ces personnages, était celui qui tenait le plus à réinstaurer tous ces rites païens, toute cette grandeur de l'ancienne Germanie qui avait été étouffée par la civilisation chrétienne. Et donc, par exemple, ce château-là était conçu vraiment, quand on visite, on voit même des maquettes enfin, de ce qui en était le projet. C'était quelque chose d'absolument immense, quelque chose de circulaire sur des kilomètres dont ce château était le centre, vraiment quelque chose qui était vraiment conçu comme un Vatican. C'était le mot, hein, qu'on en faisait le parallèle, un Vatican nazi, quoi, ce qui devait être vraiment le centre d'une nouvelle religion. Et encore, dans le château, les derniers restes d'architecture comme ça, un peu nazie, qu'on visite encore, quoi, hein, qui sont là. Donc voilà, il y a eu tout ce... C'est comme ça que le roman s'est construit. Et encore une fois, je vous dis, avec cet étonnement de voir qu'en fait, même si on part d'une idée qu'on croit inventée par soi-même, la réalité prouve, voilà, dépasse et entraîne elle-même la construction du roman. Donc c'est ce personnage-là de l'espion, effectivement, et qui a existé, qu'on connaît, c'est un personnage assez mystérieux qui s'appelle Otto Hahn, puisqu'il a... Il a écrit deux livres qui ont en particulier participé à un regain d'intérêt par rapport au catharisme, par exemple, hein, puisqu'il a écrit la quête du Graal, donc qui était un des écrivains préférés du régime nazi, qui appartenait à la SS et qui a disparu de façon très mystérieuse. Donc voilà. Et donc c'est lui qui est censé infiltrer les milieux juifs de Prague, pour justement trouver les traces encore là de ce secret du golem. Et il va y parvenir.
Alors, on l'a dit, l'histoire se situe à Prague. Dans vos recherches, dans votre documentation, qu'avez-vous découvert sur Prague ?
Bah d'abord, la magie de la ville. Vraiment, c'est un cliché de dire un peu ça, mais effectivement, je crois que le personnage peut-être principal, en tout cas de cette partie, c'est la ville de Prague elle-même. C'est quand même une ville assez particulière, bon, je le fais dire... au personnage, parce que effectivement c'est une ville magique, mystérieuse, mais d'une façon originale. Ce n'est pas comme les grandes villes saintes comme Jérusalem, Bénarès, enfin, où on voit que c'est Dieu qui appelle, le divin qui appelle l'homme. Dans Prague, il y a quelque chose de plus prométhéen. Les légendes, ce sont des magiciens, des médiums, des alchimistes. Donc le golem, c'est quelque chose de plus, l'homme qui force les portes du divin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à Prague, quoi, jusqu'à des écrivains comme Karel Čapek, qui a inventé quand même le thème du robot. Quand on voit la façon dont tous les écrivains parlent de Prague, que ce soit Mehring, que surtout Kafka, c'est quelque chose de vraiment...
Deux écrivains que vous évoquez beaucoup à travers Camille, donc l'autre héroïne du roman, qui vient à Prague pour approfondir ses recherches. Sur ces auteurs.
Voilà, c'est ce qui justifie la présence de cette jeune Française à Prague. Elle fait une recherche littéraire, une thèse, quoi, sur justement ça. l'emprise de Prague, la place de Prague chez deux écrivains majeurs, Mehring et Kafka. Et justement, avec ce qui se précise dans cette question-là, qu'est-ce qu'une ville comme Prague fait écrire? J'essaye de dissituer mon propre roman, hein. Voilà, et c'est peut-être la façon la mieux de répondre. Donc cette Française, cette petite jeune Française, va faire aussi la transition entre, après, ce qui va être une deuxième partie du roman qui remet dans les jours contemporains, là, du début du XXIe siècle. Quoi.
L'écriture de votre roman s'appuie sur trois voyages, trois séjours que vous avez faits à Prague. Le premier dans les années 1970, le dernier, on suppose, peu avant l'écriture du livre, ou aux alentours de l'écriture du livre. Comment avez-vous vu évoluer cette ville? On parle toujours d'une Prague mystérieuse, magique, mystique. Aujourd'hui, comme pour cette légende du golem, quand on va à Prague, on peut penser, vu son évolution très, très commerciale et inévitable, que tout ça, c'est finalement, ce n'est plus que du marketing, on va dire. Alors, comment avez-vous vu évoluer cette ville?
Alors, bon, peut-être ma réponse va vous décevoir, c'est qu'effectivement, je n'ai pas voulu voir l'évolution de cette ville. Et que si Prague m'a convaincu de quelque chose, c'était que même au travers de toute cette, évidemment, puisque mon premier séjour même était dans la Prague communiste, enfin, donc évidemment, l'évolution, on la voit, hein, ça, il n'y a pas de souci. Bon terme, hein, bien sûr, la liberté, hein, tout ce foisonnement culturel, quand même, hein, puis bien sûr le côté commerce, tourisme, bien sûr. Mais en fait, non, si quelque chose, même le dernier voyage, mon dernier voyage à Prague m'a montré quelque chose, c'est à quel point, justement, Prague tenait ces choses, à quel point elle les faisait quand même perdurer. Peut-être pour quelqu'un qui pouvait les chercher, mais que les choses étaient bien toujours là, parce qu'on trouve toujours un coin de brouillard, une ruelle éclairée par quelques lampadaires dans la brume, enfin, un endroit près de la Moldao, une ombre, un personnage un peu curieux, voilà. Donc en fait, même si, je veux dire, même pour moi personnellement, même le dernier voyage en plus était encore doublé de tout ce que j'avais pu construire de mes personnages, quoi. Donc je voyais un café, un bâtiment, un parc, et tout ça pour moi encore justement se doubler de toute cette capacité imaginaire, magique, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot de Prague.
Pour écrire un roman tel que celui-ci sur le golem, est-ce que vous y croyez un peu à ce golem?
Ah bah bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses autobiographiques, hein. Le plaisir d'écrire un roman comme ça, c'est aussi le plaisir d'y infiltrer des choses qui sont personnelles de ma propre histoire, quoi. Donc une des dimensions aussi, qui constitue d'ailleurs le premier chapitre du roman, qui se passe dans les années 60, qui sont censées être celles de l'enfance d'un des narrateurs, enfin d'un des personnages.
Oui, parce qu'il faut le dire. Alors l'histoire commence, avant de nous rendre à Prague, dans la première partie, on se trouve d'abord à Berkplage,
voilà.
Très loin de Prague, en 1974, avec un gamin, un jeune garçon qui passe ses vacances au bord de la mer avec sa mère, son frère, et auquel on offre un bouquin très, très particulier qui le choque, qui le traumatise.
Voilà, ben cela c'est quelque chose qui a été absolument vrai. Hein, donc, c'est-à-dire que, ben, effectivement, j'étais en vacances, là comme ça, dans les années 60, dans cette station balnéaire de Berck-Plage, dans le nord de la France. Et justement, la logeuse de notre location m'avait offert un livre, soi-disant parce qu'elle avait cru comprendre que je m'intéressais à l'histoire, et qui était un livre sur les camps de concentration. Et bon, faut se placer un peu dans le contexte de l'époque. Hein. Aujourd'hui, ce sont des images assez banalisées par toute la documentation qu'on peut avoir, mais dans les années 60, encore avec le secret de la chose, les documents qui étaient quand même peu accessibles, il n'y avait pas Internet et ni la télé, c'est vraiment été un choc de voir tout ce qui avait été fait à ces gens. Et alors, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'effectivement, ce livre avait une odeur épouvantable. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais dans mon esprit d'enfant, il m'apparaissait absolument certain qu'il y avait quelque chose là de mystérieux et qui faisait que cette odeur n'était pas du tout une simple odeur de vieux papier ou de livres qui avaient traîné on ne sait où, mais qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait, et comme si cette odeur même du livre était quelque chose qui dépassait le texte et les photos et qui venait là m'interpeller. Me faire sentir ce qu'a été effectivement l'odeur épouvantable de ces camps dans les conditions qu'on connaît. Donc il y a une espèce d'interpellation là, effectivement, d'une espèce d'au-delà de la réalité qui m'avait saisi à l'époque et que j'ai voulu reprendre, donc, puisque ce personnage, bon, à partir de ce livre, va commencer à faire des cauchemars qui vont le lancer justement dans l'aventure et justement dans la redécouverte de toute cette partie qu'on vient de parler de l'histoire qui passe à Prague, puisqu'il y est lié par le fait justement que cette jeune étudiante, eh bien, des années plus tard, elle se retrouve à faire partie de la famille de ce personnage, quoi, et qu'il va avoir quelque chose à faire pour achever cette partie de l'histoire.
Voilà, et donc cette photo, on la retrouve ensuite une trentaine d'années plus tard, c'est ça, c'est le début de la seconde partie du roman, puisque donc cet enfant qui a été traumatisé par cette photo l'oublie, et puis le cauchemar revient, et donc c'est ce qui lance le début du livre. Et là on retrouve également l'héroïne française qui était à Prague en 1937, qui a pris qui a vieilli,
qui est une vieille dame,
mais qu'on retrouve également assez vite dans cette seconde partie qui est plus actuelle, mais qui toujours également des retours dans l'histoire.
Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, ce personnage, qui est un psychologue, hein, et puis un personnage assez insignifiant, un personnage quotidien, il y a une récurrence de ces cauchemars qu'il faisait. Et donc, on va découvrir qu'en fait, c'est justement parce que, au même moment, quelqu'un a retrouvé ces golems qui avaient quand même réussi à faire cet illuminé nazi, Karl Maria Willigut, et que quelque chose est en train de reprendre, puisqu'il y a effectivement même des assassinats, il y a dans lesquels on peut déceler d'ailleurs des reprises de l'idéologie nazie, et que donc quelque chose se produit. Et donc il faut effectivement que quelque chose se passe qui puisse l'arrêter. Et donc c'est justement, une des hypothèses, une des clés du roman, c'est effectivement de penser que quelque chose de l'esprit du juif qui possédait le secret du golem est toujours là, prend possession de l'esprit. Il y a une sorte de possession à travers les années du personnage, du psychologue, qui va le lancer dans l'aventure pour justement essayer d'arrêter ces choses abominables qui sont en train de se reproduire. Là encore, ce n'est pas une totale invention, parce que là aussi, dans la Kabbale, ce sont des choses qui existent. Hein, qu'un grand saint, un grand personnage spirituel peut tout à fait influé, une sorte de résidu psychique, enfin, sur l'esprit d'un descendant ou d'un successeur, quoi, un peu comme on le voit même dans des traditions comme le bouddhisme tibétain, ce sont des choses classiques, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui va se lier, où justement on va retrouver cette vieille dame qui était l'ancienne amie, amante du jeune juif qui
détenait le secret
qui détenait le secret, voilà. Et donc tout ça se noue pour effectivement refaire un rebond de toute cette histoire aujourd'hui.
Peut-on en dire encore un peu plus ? Ou alors, selon vous, faut-il s'arrêter là pour mettre l'eau à la bouche aux éventuels lecteurs ? Que peut-on encore dire sur cette seconde partie ?
Alors, eh bien, qu'elle comporte déjà le secret de la fabrication du golem, hein. C'est pas rien. C'est quelqu'un qui le lit attentivement, il réussira peut-être, comme moi, à construire son propre golem. Voilà, je crois que c'est un livre qui prend sa place dans ce qui peut être justement la vie d'un mythe.
C'est ainsi que s'achève cette émission spéciale Noël, une émission qui était consacrée au roman Golem, publié en 2004 aux éditions Phébus en France. Golem, dont l'auteur est Alain Delbe, que nous venons d'entendre. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes de Radio Prague en français. Ahoy.